Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quel est l'impact de la COVID-19 sur la santé et le bien-être des femmes? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Une année après l'apparition de la COVID-19 au Mali, comment les femmes vivent cette situation? Le coronavirus a-t-il entraîné des violences psychologiques, sexuelles et économiques sur les femmes? Comment elles arrivent à survivre en cette période de pandémie? Nous avons invité pour cela Aïchata Sangaré de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. Elle est au téléphone dans la région de Mopti. Ibrahim Abalo est avec nous. Il est de l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Moi, je suis Mariam Koulibaly à la présentation. C'est maintenant.
Le Grand Dialogue.
Alors, Monsieur Balo, comment la COVID-19 a impacté les femmes au Mali?
Je remercie l'Institut Tamani qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler de la COVID-19 au Mali et son impact sur la santé physique, mentale et même sexuelle et sur la femme malienne. Donc je pense que le débat a été ouvert pour ça. Donc la maladie à coronavirus a eu un impact sérieux sur les femmes, sur le plan la santé mentale, physique et même sexuelle. Je pense que nous allons rentrer plus en profondeur.
Aïchata Sangaré, dans la région de Mopti, est-ce que vous avez constaté des cas d'impact de la maladie à coronavirus sur les femmes?
Allô, oui.
Est-ce que vous avez constaté des cas d'impact de coronavirus sur les femmes dans la région de Mopti?
Oui, ok, merci beaucoup de m'avoir invité d'abord. Je peux dire que oui, j'ai constaté beaucoup d'impact sur les femmes à Mopti. Notamment les femmes déplacées, celles qui sont dans les sites des déplacés. On peut dire qu'elles sont beaucoup plus exposées à la maladie de COVID-19.
Comment cela?
Et ça beaucoup. Hein?
Comment ça? Elles sont impactées plus que les autres femmes?
Oui, elles sont vulnérables et puis elles sont plus exposées que les autres parce que là, elles ne sont pas dans les conditions meilleures pour se protéger contre la maladie. Elles ne sont pas dans les conditions meilleures. Et aussi, ça a beaucoup joué sur d'autres femmes aussi. Par exemple, les femmes, ça joue beaucoup sur leur... ça a beaucoup joué sur eux économiquement parce qu'il y a des femmes commerçantes, les entrepreneuses, les restauratrices, que j'ai vu que beaucoup d'entre elles font la restauration, mais avec la maladie de COVID-19, il n'y a pas beaucoup de marché, donc ça a beaucoup joué sur les revenus économiques. Et aussi, ça a aussi augmenté les violences dans les foyers. Parce qu'on a vu que les femmes sont plus exposées et les enfants aussi.
Monsieur Balo, est-ce que à Bamako, vous avez constaté, après la prise des mesures sanitaires par les autorités, comme la fermeture des frontières et les couvre-feux, entre autres, est-ce que toutes ces mesures-là ont eu un impact sur les femmes?
Bien sûr. Je remercie Mme Sangaré de la PDF à Mopti pour son engagement en faveur des droits, son engagement historique, l'engagement historique de son ONG en faveur des droits des femmes au Mali et de par le monde. Bien sûr, AMSO travaille à Bamako, Kayi, Koulikoro, Ségou. Bref, les mesures prises par les autorités ont eu un impact certain sur les femmes. Je partage le plan économique. La plupart de nos femmes donc, travaillent dans les secteurs informels. Lorsque les couvre-feux sont instaurés à partir des 20 heures, celles qui font la restauration, les petits commerces, donc, perdent beaucoup. Et bien évidemment, cela a un impact sur l'économie de la femme. Et même sur le plan de la santé, la maladie, l'avènement de la maladie au Mali a créé une sorte de psychose chez tout le monde, y compris les agents de santé. Or, c'est dans les cas où on est malade, le premier réflexe, c'est d'aller vers les centres de santé. Donc, les femmes qui n'ont pas l'information tout le temps, l'information vraie et crédible sur la maladie, même si elles tombent malades, elles se retiennent. Donc, c'est petit d'aller se faire consulter. ces petits sondages nous ont permis de comprendre que, ah, effectivement, la mauvaise information, c'est la maladie, la non-prise en compte des mesures barrières, donc a un impact sur la santé de la femme. L'autre deuxième aspect également par rapport à la femme, les cas de mariage précoce. Lorsque les élèves sont fermés, les enfants sont à la maison, les papas pensent que, bon, donc en mariant les filles, les enfants, ça va leur faire une bouche de moyens à nourrir. Et bref, cela a
Est-ce que vous avez remarqué ces cas dans certaines localités?
Oui, bien sûr. Donc cela a été un facteur favorisant pour accélérer vraiment les mariages d'enfants. Et nous avons, en son temps, et nous avons continué à le faire, élaborer des messages via les radios, que je salue par là, les médias, qui abattent un travail formidable en matière de sensibilisation donc, contre la maladie. Nous avons couplé les mariages et les violences, les messages sur les violences basés sur les gens à la lutte contre la COVID-19.
Aïchata Sangaré, est-ce que vous êtes du même avis que M. Ballot pour dire que les mesures barrières qui ont été prises par les autorités en sont aussi à l'origine des violences que les femmes ont subies dans leur ménage pendant la COVID-19?
Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord parce qu'on a vu qu'avec le confinement, ça a augmenté beaucoup les violences dans les foyers. Surtout chez les femmes et les enfants. On a vu qu'il y a plus de violences conjugales au niveau des familles. Parce que le fait que les hommes ne travaillent pas la nuit, ils ne sortent pas, donc ça les énerve. Donc ça joue toujours sur les femmes et les enfants. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect aussi, comme il l'a dit, les femmes, on a vu que ça joue sur eux, sur le plan sanitaire. Parce que même si elles sont malades, elles refusent d'aller à l'hôpital et elles refusent aussi d'amener les enfants pour les faire vacciner parce qu'elles se disent qu'une fois qu'on part à l'hôpital, seulement on dit que c'est le coronavirus. Donc à cause de ça, beaucoup psychologiquement, elles refusent d'aller à l'hôpital même pour se faire soigner ou bien pour soigner leurs enfants.
Les femmes psychologiquement ne demandent pas de l'aide. Est-ce que dans cette situation, des femmes ont eu recours à votre structure ou bien à votre connaissance, elles se sont rapprochées d'autres structures pour demander de l'aide? Dans ce genre de situation, vont-elles vers vous?
Oui, bien sûr. Nous avons été sollicités plusieurs fois et nous continuons à l'être. Et il y a d'autres structures aussi qui travaillent en faveur des droits des femmes et des enfants qui sont également sollicités, y compris les ministères de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Nous sommes sollicités parce que, donc, avec l'impact de cette maladie, les femmes voient leurs revenus diminuer lorsque les frontières sont fermées, lorsque vraiment celles qui entretiennent la restauration ne peuvent pas mener vraiment ce commerce-là comme elles le souhaitent. Donc, déjà, sur le plan financier, elles sont étouffées. Là, c'était devenu agonisant. Donc, nous avons développé à notre niveau des programmes qui consistent à développer la résilience de ces femmes-là face à l'impact du COVID-19. Donc, nous, notre travail, c'est d'abord les rassurer que vraiment, bien sûr, la maladie, elle existe. Ce n'est pas par gaieté de cœur que les pouvoirs publics ont fait ça. Donc, ailleurs, ce qu'on voit, donc ça impacte sérieusement sur la communauté. On ne veut pas que ça arrive comme ça chez nous. Sinon, nos cimetières seront remplies. Donc, ce sont des mesures que les autorités ont prises. Mais il va falloir nous organiser en conséquence et vivre avec. Mais bon, dans un pays pauvre, comment comment compenser le complément que les femmes perdent? Donc, nous, avec nos partenaires, nous avons réfléchi au comment monter des programmes donc socio-économiques qui permettent à ces femmes-là de s'organiser pour pouvoir aller de l'avant. Par exemple, nous avons confectionné des masques pour les femmes avec le tissu local. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné ce marché aux femmes qui opèrent dans les secteurs de la coupe et couture. Voilà. Donc, en un premier temps, ça apporte quelque chose. Et en un deuxième temps, on les met en avant également par rapport à la sensibilisation. Donc ça, c'est un autre aspect. L'autre aspect également, c'est que nous avons beaucoup collaboré avec les structures de santé pour qu'on puisse comprendre les femmes à ce niveau-là. Les prestations de services qui vraiment se soient disponibles 24 heures sur 24. Et également, nous octroyons des... C'est pas beaucoup, mais avec nos moyens, nous octroyons des alternatives aux femmes pour pouvoir avoir, pour se faire un peu de revenus eu égard vraiment à l'impact du COVID-19.
Aïssata Sangaré, est-ce que des femmes sont allées vers votre organisation pour demander de l'aide? Et si oui, quel genre d'aide?
Oui, bien sûr. Il y a des groupements de femmes qui sont venues nous voir pour, par exemple, pour avoir des masques. On a offert des masques à certains groupements de femmes. Et aussi, il y a des femmes qui viennent aussi nous demander des lettres par rapport aux AGR, les activités génératrices de revenus. Comme la teinture, on fait la teinture, la savonnerie, la coupe et couture et la transformation des produits locaux. Donc, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont venues nous solliciter pour dire qu'elles vont faire les AGR, soit en savonnerie, en coupe et couture, ou en teinture, parce qu'on a vu que la maladie de COVID-19 a beaucoup joué sur leur activité génératrice de revenus. Avec la fermeture des frontières, il y a beaucoup de femmes commerçantes qui ne font plus le commerce, qui sont assises à la maison comme ça, et les restauratrices aussi, les gens ne viennent plus, elles n'ont pas de clients. Donc avec ça, elles préfèrent faire des AGR au lieu de s'asseoir à la maison. Donc c'est ce genre d'aide qu'on a fait aux femmes.
Monsieur Ballo, est-ce que vous avez constaté en cette période de pandémie une hausse des cas de violences sexuelles ou conjugales?
Oui. Les réseaux sociaux nous faisaient amuser à Bamako. Donc, les femmes qui commentent le fait que les maris sont obligés de rester à la maison, maintenant, elles contrôlent. Bon, enfin, elles ont leur mari à temps et à temps voulu. Donc, ça nous faisait un peu marrer, mais bon, cela a eu un impact évidemment sérieux sur la vie conjugale, puisque les maris qui ne peuvent pas aller se défouler, entre guillemets. Donc, quand on sort, c'est pour peut-être souvent aller se défouler, se dégager l'esprit, se distraire quelque part. Mais bon, lorsque c'est là, on est contraint de rester à la maison, il y a la monotonie, il y a le stress. Donc, on pense que, bon, à la moindre chose des choses, donc on se défoule. Maintenant, c'est la femme. Donc, cela a eu un impact surtout sur le plan psychologique. Donc, et les enfants aussi ont eu également leur compte. Parce que pendant ce temps, on a fait, 3 mois après, un petit sondage qui nous a révélé effectivement que les femmes, le taux de violence conjugale a également augmenté. La violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Voilà. Lorsque le mari n'est pas de bonne humeur parce qu'il ne parvient pas à sortir, donc c'est la famille, la femme et les enfants qui récolte un peu les conséquences c'est les membres de la famille, les autres membres deviennent leur souffre-douleur en quelque sorte. Donc cela aussi s'est ressenti avec la pandémie.
Et c'est assez, dans la région de Mopti, est-ce que vous avez constaté ce genre de cas?
Quel genre de cas?
Où il y a eu hausse des cas de violence faites aux femmes ou bien de violence conjugale due aux mesures prises par les autorités sanitaires?
Par les autorités sanitaires.
Oui.
Oui, comme je l'ai dit précédemment, il y a des femmes, on a vu qu'avec le confinement, là, il y a des femmes qui sont battues par leurs maris, les enfants. Ils sont tous victimes de violences physiques, que ce soit physique, psychologique, et des menaces aussi, des injures graves de la part des hommes. On a vu des exemples ici. Il y a des hommes, parce qu'il y a beaucoup qui travaillent la nuit aussi. Par exemple, les hommes boulangers, il y a d'autres qui font les lave-gardes. Bon, ces hommes, le fait qu'ils restent à la maison, ils n'ont pas d'argent ni rien, donc ça les met en colère.
Donc, il y a l'impact économique derrière aussi.
Hein?
Il y a l'impact économique qui se cache aussi derrière cette violence.
Oui, bien sûr, l'impact économique. C'est ça la source même. C'est ça la source. Donc, on a vu que ça a été augmenté, les violences conjugales. C'est pourquoi, au niveau de notre centre ici, on fait des sensibilisations, on continue à faire des sensibilisations toujours sur les mesures barrières, les respect des mesures barrières sur le COVID-19. Parce qu'ici, à Mopti, on a même constaté que les gens ont du mal à croire à cette pandémie-là. Les gens ne croient même pas à la maladie. Ça, c'est le problème primordial. Les gens ne croient même pas. Donc, c'est pourquoi on continue avec les sensibilisations, on fait des émissions radio, on invite les femmes, on les sensibilise.
Monsieur Balo, le fait que les gens ne croient pas en cette maladie, est-ce que les femmes ont un rôle à jouer en cela?
Bien sûr, la femme, c'est le pilier de la famille. C'est la mère de l'humanité. Donc, je profite de l'occasion pour dire à Madame Sangare que ce n'est pas seulement Mopti, Bamako et partout, comme le Mali en général, est toujours sceptique par rapport vraiment au changement de comportement. Donc, même à Bamako, beaucoup de gens ne croient pas à la maladie. Et les femmes ont un très grand rôle à jouer donc, au sein de la famille. Lorsque, mais, écoute, moi par exemple, si tu dis que ta famille, ta femme, la femme, c'est qui te doit te protéger, protéger ses enfants, elle éduque ça, les enfants dans ce sens, tout le monde. Moi, lorsque j'oublie de sortir avec mon masque, c'est mon petit garçon qui me dit, papa, tu ne sors pas tant ton masque. Donc, je m'arrête, il va les chercher. Donc, bref, ça devient la routine chez moi. Même si j'oublie, il y a quelqu'un qui me rappelle. Ça, c'est le rôle de la femme, ça. C'est elle qui nous éduque tous, et nous, et nos enfants, et même son environnement immédiat. Les visiteurs qui viennent, il y a l'équipe de lavage devant la porte. Il y a aussi les gels à la maison. Ceux qui n'ont pas de masque, on les donne. Bref, la femme est au foyer, dans les quartiers, dans la communauté, au service. La femme est au centre vraiment de cette prévention. Et il faut valoriser vraiment son rôle.
Madame Sangare, qu'est-ce que les femmes peuvent faire maintenant pour faire adhérer toute la communauté aux mesures barrières adoptées par les autorités pour lutter contre la maladie?
Bon, comme M. Balo l'a dit, c'est la femme qui est le noyau de tout dans la société. Si la femme veut changer le monde, elle ne peut. Par son comportement, parce que tout d'abord, ça commence dans la famille. C'est la femme qui éduque les enfants. L'homme n'est pas toujours dans la famille. C'est la femme qui est là. Donc, c'est elle qui doit tout faire pour respecter ces mesures barrières-là, protéger elle, ses enfants et son mari. Parce que je peux dire qu'au Mali, ici, les hommes n'ont pas le temps pour ça. Donc, c'est la femme qui est là pour ça. Déjà, ça commence dans la famille et ensuite la société et ensuite dans la communauté. Parce que même ici, nous, on fait les sensibilisations. Ce n'est pas avec les hommes, mais c'est avec les groupements de femmes. Parce qu'on pense que les femmes, elles sont capables de changer la situation et elles sont capables aussi, si elles le veulent, elles peuvent convaincre les hommes à changer de comportement.
Dans votre région, est-ce que vous avez constaté des actions de ce genre, des femmes qui se mobilisent pour faire de telle sorte que les gens puissent comprendre que cette maladie existe bel et bien chez nous?
Ici, à Montpellier?
Oui.
Non. Non, parce que le problème, c'est ça. Parce que ici, la plupart de la communauté ne croit pas à la maladie, même les femmes. C'est pourquoi nous, on continue avec la sensibilisation. Les gens ne croient même pas à la maladie.
Quel est l'impact de la COVID-19 sur la santé et le bien-être de la femme? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Et on a parlé de l'impact sur les femmes. Maintenant, on va parler aussi de l'impact sanitaire. Avec la venue de cette maladie, est-ce qu'il n'y a pas une diminution de la fréquentation des centres de santé aussi par les femmes?
Absolument, madame. Et au début de mon intervention, j'en ai parlé. Et même les taux de consultation prénatale a fortement diminué, puisque les femmes, là, au départ, je pense que nous avons fait une faute professionnelle en matière de communication. Je dis nous, acteurs qui interviennent auprès des communautés. Donc, sur les gestes barrières, les gens ont eu finalement peur de partir vers les centres de santé. Oui. Donc, quand ça se présente comme ça, une femme qui doit aller en CPN, donc, se réserve de partir. Et elle et les enfants, je pense que Mme Sangare en a parlé. Donc, cela a un impact évident donc, sur les taux de consultation prénatale, postnatale. Donc, cela aussi impacte véritablement la santé sexuelle et reproductive chez la femme, puisque vraiment, elle ne va pas développer cette grossesse-là dans de meilleures conditions, dans des conditions souhaitables. Voilà.
Madame Sangare, est-ce que, selon vous, cette maladie aussi a eu un impact sur la santé de la reproduction de la femme dans votre localité?
Oui, bien sûr. Ici, c'est pire.
Comment ça?
Ici,
allez-y.
J'ai dit, les femmes ne fréquentent plus les centres de santé. Même les enfants, elles les amènent pas aussi. Parce qu'elles se disent qu'une fois arrivées à l'hôpital, on va te mettre en quarantaine. On va te dire que tu as COVID-19. Donc, par peur, elles restent à la maison, même si elles sont malades, même si les enfants sont malades. Je donne un exemple. Même moi, un moment, j'étais tombée malade. Je partais à l'hôpital. Il y a une femme qui est venue chez moi. Elle me dit, non, Sangaré, il ne faut pas aller à l'hôpital. Hein. Si tu pars seulement, on va te mettre en quarantaine. On va dire que tu as COVID-19. Non, j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Si j'ai COVID là, c'est mieux de le savoir que de contaminer les autres. Bon, ici, les gens ont cette mentalité-là. Une fois qu'on part à l'hôpital, on te dit que tu as COVID-19. Donc, à force de se mettre cette idée-là en tête, les femmes ne vont même pas à l'hôpital. Ni elles, ni les enfants. Donc, c'est ça le grand problème.
Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour atténuer les conséquences sanitaires et sociales du COVID-19 sur les femmes? Madame Sangaré, toujours.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On continue toujours avec les sensibilisations.
Depuis longtemps, on fait des sensibilisations. Si les sensibilisations n'apportent pas leurs fruits, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Est-ce qu'il faut aller avec la manière forte selon d'autres?
Bon, je pense qu'il faut, comment dire, le gouvernement doit prendre des dispositions pour les gens. Par exemple, même ici à l'hôpital, on ne te laisse pas entrer là-bas si tu n'as pas de masque. On ne te laisse pas entrer si tu n'as pas de masque et si tu ne te laves pas les mains. Donc moi, je pense qu'on doit exiger le respect des mesures barrières.
Monsieur Bello,
la sensibilisation seule ne suffit pas, mais il faut exiger, que ce soit à l'hôpital, dans les banques, des lieux publics là. Il faut que le gouvernement prenne des mesures strictes pour ça.
Êtes-vous d'accord avec Mme Sangaré sur le fait que les autorités aussi doivent prendre leurs responsabilités?
Oui, les autorités doivent prendre leurs responsabilités en étant assez rigides sur vraiment les dispositifs à prendre. Et également changer de stratégie, également rapprocher beaucoup plus les services sociaux sanitaires de la population. Nous, avec le cas de la planification familiale, nous avons vu des cliniques mobiles. Donc, avec l'impact du COVID-19, pourquoi ne pas également faire vraiment des cliniques mobiles pour que vraiment les femmes puissent avoir facilement accès vraiment à des structures de santé pendant leur maladie ou même pendant leur grossesse. Donc, il faut voir les deux, quoi. Donc, mettre des barrières, être assez strict par rapport aux mesures barrières et également rapprocher beaucoup plus les services sociosanitaires des communautés. Si les femmes ne vont pas vers les structures de santé, faire de telle sorte que les structures de santé viennent un peu plus proches des femmes pour que l'accès puisse leur être beaucoup plus facile.
On a parlé de beaucoup de difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pendant cette pandémie à COVID-19. Maintenant, elles sont dans cette difficulté-là. Comment est-ce qu'elles gèrent leur quotidien, selon vous, M. Ballot?
C'est assez délicat, mais je pense que les femmes, nous commençons tous à comprendre que, pas seulement les femmes, nous tous, que cette maladie, il va falloir vivre avec. Voilà, donc ça devient, ça fait plus d'un an, à peu près un an maintenant. Donc il va falloir vivre avec. Elles ont développé des capacités de résilience, Dieu merci, et développé d'autres stratégies, des stratégies pour pouvoir s'adapter. Donc nous devons être dans la logique que jusqu'à présent, bien sûr ailleurs, il y a eu les vaccins, ça commence à venir. Chez nous, il n'y en a pas pour le moment. Donc nous devons continuer à vivre. Continuer à exercer vraiment notre profession, nos professions respectives pour faire vivre nos familles, mener une vie normale, tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Voilà. Donc, on vit avec la maladie, mais ces émissions se passent quotidiennement, non? Il y a des mesures barrières qui sont prises. Donc, si tout le monde est conscient que la maladie, là, c'est pas, ça va finir maintenant. Il va falloir qu'on puisse amener à vivre avec et à nous adapter à la situation. L'homme, on s'adapte à la situation tout en respectant donc les mesures barrières, se protéger, se laver les mains à tout moment, donc porter son masque, utiliser les gels, la distanciation sociale de 1m50 qu'on puisse les respecter Et puis, si tout le monde adopte ces mêmes comportements, je pense que vraiment, on va, je ne vais pas dire risque zéro, mais on va amoindrir vraiment les risques et nous allons vivre normalement avec.
Instata Sangaré, dans la région de Mopti, est-ce que les femmes commencent à s'adapter à cette maladie?
Ici, oui.
Oui,
oui, elles commencent à s'adapter à cette maladie.
Comment?
Mais le problème est qu'elles n'y croient pas. C'est ça le problème. Il y a beaucoup, les 90% de la population de Mopti n'y croient pas à la maladie.
D'accord. Monsieur Ballo, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redynamiser le secteur économique des femmes qui a connu une chute lors de cette maladie-là?
Très bonne question. Et en tant que défenseur des femmes, des causes des femmes, je pense que le gouvernement doit, pas seulement le gouvernement, mais le développement et les partenaires au développement, nous tous y compris, il doit avoir un fonds spécial pour les femmes. Surtout pour celles qui vivent dans les secteurs informels. Oui, permettre aux femmes d'avoir accès vraiment à certaines ressources pour elles-mêmes. Donc, dédouaner les femmes de certaines charges fiscales et renforcer leurs capacités. Donc, eu égard à la situation actuelle, pour que vraiment les femmes puissent vraiment s'insérer normalement dans le tissu social dont leur place est tellement importance au niveau du Mali.
Et Sata Sangaré, comment aider ces femmes touchées par la maladie à COVID-19 à se relever, économiquement parlant?
Économiquement?
Oui.
Bon, moi, je pense que le gouvernement doit les appuyer. Bien, parce que les ONG les appuient aussi, mais ça ne suffit pas. Moi, je pense que le gouvernement aussi doit les appuyer économiquement. Pour qu'elles puissent, se résilier et continuer avec leurs activités économiques.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles demandent dans la région de Mopti? Qu'est-ce que les femmes veulent concernant cette maladie à COVID-19? Qu'est-ce qu'elles espèrent aujourd'hui?
Les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent aujourd'hui?
Oui.
Bon, c'est ça, je ne peux pas dire grand-chose, parce que les femmes, elles ne croient pas à la maladie. Donc, au fait, je ne sais pas quoi ce qu'elles veulent, parce qu'elles disent qu'elles ne croient même pas à la maladie. Bon, dans ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Moi, je pense qu'on doit les convaincre d'abord, les sensibiliser toujours, comme vous l'avez dit, et aussi les inciter à porter les masques et utiliser les gels et à se laver les mains.
Monsieur Ballo, les femmes qui ont été victimes de violences conjugales et autres, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Quelle aide elles peuvent demander de nos jours?
Les femmes qui ont été victimes de violences donc au sein de leur foyer, l'aide, elles ont toujours notre aide sur le plan mental, sur le plan psychologique, même médical. Dieu merci à Mopti, à Ségou, Sikasso, Kaï, Bamako, Kulikoro et tous récemment Kangaba. Le gouvernement et le FINAP ont mis en place des One Stop Center, des guichets uniques, un espace où une femme qui a été victime de violence peut se rendre pour solliciter un appui sur le plan médical gratuit, psychosocial gratuit, juridique gratuitement. Donc ça, nous avons ces services-là pour les femmes. Et également, nous mobilisons également des ressources pour aider ces femmes dans le plan socio-économique. Une femme qui a été violentée, donc qui a une incapacité de travail, elle a besoin, donc lorsqu'elle cesse de travailler, donc elle n'a plus de revenus. Nous la soignons, donc elle a été mise dans cette situation de plan sanitaire. Il faut également l'accompagner vraiment financièrement pour qu'elle puisse s'insérer de nouveau dans les tissus économiques. C'est ce que nous étions de faire. Et c'est ce que l'État aussi doit songer à faire en mettant en place également des ressources, des fonds d'accès facile pour ces femmes qui ont été victimes de violences.
Madame Sangaré, les femmes qui ont été victimes de violences conjugales, quelle est la meilleure réponse qu'on peut leur apporter aujourd'hui en termes de soutien?
La femme qui a été victime de violences
conjugales pendant cette période de COVID-19, quels recours elles peuvent faire pour rentrer dans leurs droits, par exemple?
Bon, elles peuvent faire recours aux ONG, par exemple à l'APDEF, il y a beaucoup d'ONG, comme M. Ballot l'a dit, il y a One Stop Center, il y a Odisael qui est là, il y a MSS qui est là. Toutes ces ONG-là soutiennent les femmes. Donc, elles peuvent faire recours à ces ONG et on peut les appuyer psychologiquement, comment dirais-je, médicalement, même juridiquement. On peut les accompagner, on peut les aider dans ces sens aussi.
Monsieur Ballot, on parle souvent d'impact négatif sur les femmes. Est-ce qu'il y a un côté positif en cette maladie? Est-ce qu'on n'a pas eu un réveil de conscience à un moment avec l'arrivée de cette maladie?
Je dirais, si le côté positif au niveau de cette maladie, c'est que les gestes barrières contribuent également à nous...
Par exemple, avec la fermeture des frontières, on a compris qu'il faudra mieux s'orienter vers les produits locaux et autres. Est-ce que ceux-là ne sont pas des avantages? Ça n'a pas permis de telle sorte que les autorités comprennent à ce qu'on doit essayer de se recentrer sur le local, essayer de miser sur nous-mêmes avant de penser aux autres. Est-ce que ce n'est pas un peu les côtés bénéfiques de la chose?
Je pense bien. Je m'explique. Tout d'abord, le fait de laver les mains au savon, de porter le masque, d'utiliser les gels. Donc, certaines maladies liées à la malpropriété ont tendance à diminuer. Ça, c'est un impact positif. L'autre aspect également, que je regrette beaucoup, c'est que avant la maladie, on devait prendre conscience que le développement passe par la valorisation des ressources locales. Lorsque les masques là, mais nous, au départ c'était cher, les masques à usage unique. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser des tissus de chez nous? Donc le produit local qu'on pourra valoriser et nous protéger. On a commencé par là. Et ensuite, lorsque les frontières ont été fermées, donc il y a des produits locaux qu'on peut trouver chez nous. Donc il faudra nous rabattre là-dessus. Donc, nous avons compris. Mais j'espère qu'après le Covid-19, ce secteur, au niveau de l'économie, va continuer vraiment à monter la pente. Parce que vraiment, tout développement doit être d'abord endogène. Donc, on s'appuie sur vraiment nos valeurs locales d'abord pour pouvoir vraiment monter.
Madame Sangaré, avez-vous remarqué des bons côtés, on peut dire, à la maladie à Covid-19 depuis son apparition au Mali?
Bon, le bon côté est que tout d'abord, on peut se protéger contre la maladie. Le fait de se protéger même, il y a des masques pour ça, il y a des gels, tout ça là pour se protéger. Ça, c'est déjà un côté positif. Et l'autre côté aussi, ça, c'est le fait que, parce que le Mali a été doté de beaucoup de matériel, par exemple dans les hôpitaux. Les hôpitaux, je veux dire que tous les hôpitaux ont été équipés par les matériels, et que ce soit les gels, les masques et autres savons, eau de javel, les cuvettes, tout pour se laver les mains. Moi, je pense que ça aussi, c'est un côté positif. Parce qu'on a reçu beaucoup d'aide quoi, de la part des autres pays. Le Mali a reçu beaucoup d'aide. Toujours pour lutter contre la maladie. Je pense que c'est les deux côtés positifs.
Vous voulez réagir?
Oui.
Allez-y.
Donc, aussi, mais quand tu vois les côtés de l'artisanat, les cuvettes qui sont fabriquées de façon artisanale, mais on marchait. Donc, la crise a amené l'artisan malien à se réinventer. Donc, à adapter leurs connaissances à la réalité malienne. Et cela aussi vraiment est à saluer, donc nos artisans. Et vraiment, j'espère qu'ils vont, après la crise, ils vont continuer encore à se réinventer, donc pour pouvoir vendre, donner un nouveau visage de l'artisanat malien.
Qu'est-ce que maintenant la communauté elle-même doit faire pour continuer sur cet élan?
Pour continuer sur cet élan, la communauté d'abord doit croire que la coronavirus, elle tue. C'est une réalité, ce n'est pas une invention. Donc, la seule personne qui peut nous protéger d'abord, c'est nous-mêmes. On a plus de conscience. Qu'on prenne conscience que la maladie, c'est la réalité. Elle peut tuer. Nous ne devons pas accepter la fatalité. Nous ne devons pas accepter de mourir. Et nous ne devons pas accepter de faire contaminer d'autres personnes. Ça, c'est d'abord le rôle de la communauté. Et ensuite, maintenant, l'autre rôle, maintenant, c'est de prendre les mesures barrières qui nous accompagnent, qui les accompagnent, disons. Et également, donc, à partir des propres de nos moyens locaux, les bouloirs et autres là, on n'est pas obligé vraiment de chercher des grands moyens sophistiqués pour vraiment se prévenir contre la maladie. Non, nous pouvons, mais j'ai vu des masques très jolis, mais à partir vraiment des produits locaux, des artisans qui fabriquent vraiment des bouilloires, des seaux, vraiment manipulables même avec le pied, avec une sorte de pédale. Hein? Bref, nous devons maintenir cet élan de créativité et nous devons être inventifs encore vraiment dans tout ce que nous faisons pour pouvoir nous mettre au-dessus vraiment des conséquences de cette maladie.
Madame Sangaré, qu'est-ce que les communautés doivent faire aujourd'hui pour continuer sur cet élan-là? Les rares bons côtés qu'on a constatés pendant cette maladie à COVID-19, comme vient de le dire M. Balou, qu'est-ce que les communautés doivent faire aujourd'hui pour continuer ainsi à exploiter nos ressources locaux? Oui, Madame Sangaré.
Oui.
Comment on doit exploiter nos ressources locales?
Bon, on doit les exploiter naturellement. On doit les exploiter parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que le Malien n'aime pas ce qui vient de chez nous. On aime toujours ce qui est exporté de l'extérieur. Donc moi, je pense qu'on doit consommer nos propres produits d'abord et les transformer, montrer le bon exemple d'abord.
Monsieur Balou, quels
sont... concernant la maladie aussi, je pense que tout le monde doit se mettre en tête que la maladie là existe ou pas, on doit se protéger. Il faut se protéger et protéger d'autres personnes. Parce que ce qu'on dit là, que ça existe ou pas, il faut se protéger. C'est ça l'essentiel, quoi.
Monsieur Balou, quels sont aujourd'hui les besoins adaptés aux femmes entrepreneurs, disons, celles qui ne sont pas affiliées à une organisation?
Je pense que l'État a mis en place des fonds.
Est-ce que c'est un acquis? Parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas bénéficié de
ces fonds. Peut-être l'information a fait défaut.
Mm-hmm.
Oui, l'information a fait défaut. Sinon, il y a des fonds pour les femmes entrepreneurs. Donc, c'est Internet. Donc, j'ai des appels à candidature, j'en ai vu plusieurs. Le gouvernement aussi avait mis un fonds également pour pouvoir aider ces femmes entrepreneurs-là. Donc, le défi qui se pose maintenant, il faudra que celles qui sont au courant de l'information puissent informer les autres. Comme quoi, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Parce que avec la maladie, le gouvernement aussi a rendu plus souple certaines mesures au niveau fiscal. Donc, pour ces femmes entrepreneurs. Donc, il faudra qu'elles soient au courant de ces informations. Il faudra qu'elles se partagent ces informations-là pour pouvoir en bénéficier.
Madame Sangaré, est-ce que des femmes ont bénéficié des appuis des autorités dans votre localité?
De l'appui des autorités?
Oui.
Oui, bien sûr. Par exemple, de la promotion de la femme, direction régionale de la promotion de la femme. Donc, ils ont donné des masques, des gels, des savons pour aux femmes, au groupement des femmes. C'est un peu pour toujours les guider dans ce sens-là, de se protéger et de respecter les mesures barrières.
On parle souvent. Oui, allez-y.
Si, je pense qu'il y a l'association. L'association des femmes entrepreneurs de Mali, donc qui est assez bien organisée. Et j'invite les femmes entrepreneurs à intégrer cette association. Plus elles sont unies, mieux elles seront. Plus elles sont unies, plus elles seront fortes. Et plus elles vont défendre leurs intérêts, donc devant l'État.
On parle souvent d'impact et d'aide de la part de l'État, mais qu'est-ce que les conjoints aussi doivent faire de nos jours pour appuyer les femmes en cette période difficile?
Dans cette période difficile, les conjoints, comme on dit, le mot, ce sont le conjoint, c'est vraiment le conjoint. Il faut être là. Sois attentif à ta conjointe. Que nous avançons tous dans la famille une période difficile, une période conjoncturelle, voilà, elle est sexuelle. Et cet appui psychologique, et plus d'affectivité, plus de compréhension, plus d'accompagnement sur le plan psychologique, affectif et même financier aiderait beaucoup la femme. Donc, si l'homme a les moyens de pouvoir soulager la femme, de l'épargner de certaines dépenses, et si le plan social est beaucoup plus attentif, plus attentionné envers son époux, je pense que le foyer va mieux se comporter.
Madame Sangaré, qu'est-ce que les hommes doivent faire pour aider les femmes à supporter cette charge-là?
Bon, je pense que les hommes, ils doivent, ils doivent soutenir les femmes. Ils doivent les soutenir, les aider, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan psychologique, affectif. Ils doivent soutenir les femmes. Parce que c'est la femme qui est le noyau de la famille. Si elle n'est pas heureuse, si ça ne va pas, même ça joue même sur les enfants. Et ça peut jouer même sur le revenu de la famille. Moi, je pense que les hommes doivent tout faire pour mettre les femmes à l'aise, les soutenir et les aider.
Nous arrivons pratiquement
à supporter leurs difficultés.
Allez-y. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et Monsieur Ballou, quel appel avez-vous à lancer aux autorités pour mieux prendre en charge les préoccupations des femmes en cette période de COVID?
Merci, Tidio Tamani. Nous tendons vers la fin. Je remercie Tidio Tamani d'avoir initié ce genre d'émission pour pouvoir discuter des besoins des femmes en cette période de COVID-19. Moi, je dirais aux autorités de faire encore plus. Voilà. Quand je dis encore plus, ils ont fait quelque chose. Ils ont pris des mesures sociales, des mesures économiques qui ont profité à toute la société malienne. Maintenant, il faut mettre en place des mesures qui font que les femmes seront beaucoup plus soulagées sur le plan économique, mettre en place des fonds qui seront beaucoup plus accessibles aux femmes qui vivent en milieu rural, les femmes qui travaillent dans le secteur informel, et également rapprocher les services socio-sanitaires en cette période-là des femmes. Donc si les femmes ne vont pas, ne fréquentent pas beaucoup les centres de santé, donc ok, les services socio-sanitaires sont beaucoup plus proches maintenant des femmes à travers vraiment les cliniques mobiles. Et également renforcer la communication de telle sorte que les hommes également puissent être beaucoup plus sensibles au problème des femmes en cette période vraiment de COVID-19. Que les femmes ne soient plus le souffre-douleur des hommes en cette période-là. Et enfin, qu'on puisse réduire au maximum les violences conjugales.
Achata Sangaré, qu'est-ce que les autorités doivent faire aujourd'hui pour aider les femmes en cette période de COVID? Le grand dialogue d'aujourd'hui vient de prendre fin et notre invité était Ibrahim Ballou de l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Et nous avons au téléphone Aissata Sangaré de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes dans la région de Mopti. Le débat a été présenté par Mariam Koulibaly à la régie Mamadou Ouattara et Noumdjiré. À bientôt.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.